Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Les disparitions forcées représentent aujourd'hui plus que jamais un défi majeur à relever dans le domaine des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes ou des membres de l'opposition sont particulièrement visés par cette pratique répandue aux quatre coins du monde. Les familles des victimes restent parfois des années dans l'incertitude sur le sort de leurs proches. Pour lutter contre les disparitions forcées, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce 23 décembre est célébré le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de ce texte. Malheureusement, il est loin d'être universel puisqu'à ce jour, seuls 63 États l'ont ratifié. Un comité des Nations unies est chargé de veiller à la mise en œuvre des dispositions de cette convention. Il peut aussi recevoir des plaintes individuelles de victimes ou de proches de victimes de disparitions forcées. En temps normal, il se réunit au Palais Wilson à Genève, au siège du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alban Prophète Palasco est la secrétaire du comité sur les disparitions forcées. Olivier Defrouville est professeur de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon Assas et expert de ce comité. Ce sont nos invités de la semaine. Alban Prophète Palasco et Olivier Defrouville, bonjour.
Bonjour.
Alban Prophète Palasco, tout d'abord, je souhaiterais que vous expliquiez le rôle de votre comité et plus largement de tous les comités dans le domaine des droits de l'homme des Nations Unies. Ils sont méconnus auprès du grand public, mais très importants dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme.
Alors, les organes de traité sont des comités d'experts indépendants qui surveillent l'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Quand un État ratifie un traité international, il s'engage à respecter les principes contenus dans ce traité et à prendre des mesures pour s'assurer que tous les citoyens puissent jouir des droits qui sont contenus dans ce traité. À l'heure actuelle, il existe 9 traités internationaux des droits de l'homme et un protocole facultatif, à partir desquels 10 organes de traité ont été créés, dont le comité sur les disparitions forcées, qui est le dernier traité à être entré en fonction le 23 décembre 2010.
Alors justement, Olivier Defrouville, vous travaillez pour ce comité des disparitions forcées. Alors pour être précis, qu'entend-on par le concept de disparition forcée ?
La disparition forcée, c'est le fait pour une personne d'être arrêtée, d'être enlevée, d'être ensuite privé de sa liberté. Et cette privation de liberté est suivie d'un déni de la reconnaissance de la privation de liberté. C'est-à-dire que les autorités qui ont privé la personne de sa liberté nient qu'elles ont cette personne en leur pouvoir. Ou alors, elles dissimulent aussi le sort qui a été réservé à cette personne. Donc, cette personne peut rester dans un lieu de détention secret. La famille, les amis vont essayer de s'enquérir de son sort et ils vont se heurter à un mur, à un silence. Les autorités vont nier le fait d'avoir cette personne, ou alors elles vont dire qu'elles l'ont eu, effectivement, qu'elles l'ont détenu pendant un moment, mais qu'elles l'ont relâché et qu'elles n'ont plus entendu parler de lui.
Quelle est aujourd'hui l'importance du défi que représente les disparitions forcées dans le monde, Olivier Defrouville ?
Alors, les disparitions forcées, c'est une pratique dont on a pris note de l'existence après la Seconde Guerre mondiale, hein, dans le contexte des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg. Et puis ensuite, c'est une pratique qui s'est répandue dans le monde, en fait, dans le contexte des guerres coloniales, dans le contexte aussi de la lutte contre les mouvements de guérilla, contre les mouvements d'opposition politique. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une pratique qui s'est répandue partout dans le monde. On la rencontre quand même le plus souvent dans des situations de conflit, situations de conflit armé ou situations de tension grave entre le gouvernement et des groupes d'opposition armée. Mais aussi dans des situations de dictature ou dans des situations, je dirais, plus chaotiques dans lesquelles se mêlent des groupes armés, des autorités qui sont ou qui dérivent vers des pratiques mafieuses, des autorités locales qui elles-mêmes sont parfois complices des groupes armés ou parfois des cartels de drogue.
Après 10 ans d'entrée en vigueur de la Convention, que peut-on dire sur l'évolution de la situation, M. Defrouville ?
Ce qu'on peut dire, mais en général, si on veut avoir une perspective peut-être un peu plus optimiste, c'est que, en remontant même avant 10 ans, peut-être les 30 dernières années, l'amélioration, elle consiste dans l'identification précise du phénomène, dans l'élaboration de normes pour encadrer ce phénomène, pour aussi criminaliser ce phénomène. Donc aujourd'hui, les disparitions forcées, c'est un crime en tant que tel, et c'est un crime contre l'humanité. Et la Convention met en place, par exemple, des instruments qui permettent aux États aujourd'hui de juger les responsables ou que le crime ait été commis d'ailleurs, donc sur la base d'un principe de compétence universelle. Donc on a, je dirais, l'amélioration fondamentale depuis 10 ans, c'est qu'on a des nouvelles armes pour lutter contre la disparition forcée. On sait ce que c'est et on sait comment lutter contre la disparition forcée aujourd'hui.
Alban Prophète Palasco, comment le comité, par son travail, lutte-t-il concrètement contre ce phénomène des disparitions et quel est le rôle du secrétariat dans ce processus ?
Donc le comité bénéficie d'un certain nombre de mécanismes qui sont prévus par la Convention et qui permettent d'intervenir. Alors il y a les examens des rapports des États, parce qu'un État qui ratifie doit remettre des rapports au comité pour rendre compte un peu des mesures prises, de la situation relative aux disparitions forcées et des projets qu'ils ont en la matière. Ensuite, il y a les actions urgentes, qui sont des cas individuels qui sont portés à l'attention du comité et à travers lesquels le comité peut demander à un État de prendre des mesures immédiates pour chercher une personne disparue et enquêter de la disparition forcée. Il y a aussi les plaintes individuelles, qui sont des processus un peu plus longs. Et une fois qu'une personne a épuisé des voies de recours internes existantes, les voies de recours internes existantes, elle peut s'adresser au comité pour qu'une violation des principes de la Convention dont elle s'estime victime soit analysée et examinée par le comité, qui décidera si oui ou non l'État a violé les droits de cette personne.
Donc, outre le dialogue que vous avez avec les États, vous apportez vraiment un soutien concret aux victimes et aux proches des victimes ?
Tout à fait. Principalement par l'intermédiaire des procédures d'action urgente et de plainte individuelle. Une demande d'action urgente peut être présentée par un proche ou par n'importe quelle personne qui a un intérêt légitime pour demander une intervention immédiate du comité, pour que le comité aille à son tour demander, exiger à l'État qu'il intervienne immédiatement pour chercher la personne disparue. À ce jour, on a eu justement l'information il y a quelques minutes, la 1000e action urgente a été enregistrée. C'est un numéro qui a vraiment augmenté de façon exponentielle ces dernières années. En 2012, un an après l'entrée en vigueur de la Convention, on enregistrait l'action urgente numéro 3. Aujourd'hui, on en est à 1000. Cela montre l'actualité du phénomène et sa gravité également.
Alban Prophète-Palasco, quel est l'impact concret du travail du comité pour les victimes de disparitions forcées ?
Cet impact dépend de la procédure concernée. Pour ce qui est des recommandations transmises aux États dans le cadre des examens de rapports et des visites, l'impact pour les victimes sera l'adoption de mesures concrètes en réponse aux recommandations du comité. Il s'agit en général de réformes qui adressent des problèmes systémiques. Ça se fait par exemple par des réformes institutionnelles, par des changements de procédure ou par des modifications législatives. Pour ce qui est des actions urgentes ou des plaintes individuelles, l'impact concerne un cas spécifique. À ce jour, les personnes disparues ont été retrouvées dans 90 des 1000 actions urgentes qui ont été enregistrées. Dans d'autres cas, suite aux recommandations du comité, les États ont pris des mesures de protection pour les personnes qui risquaient de souffrir un dommage irréparable, comme des menaces de mort ou des situations mettant la vie des personnes en danger ou les empêchant l'accès à un droit essentiel comme la santé ou l'éducation. Dans d'autres cas encore, les États ont changé de stratégie de recherche et d'enquête en mettant en œuvre les recommandations du comité. Et en termes plus généraux, plus globalement, je dirais que ce mécanisme d'action urgente permet aux victimes de trouver un autre interlocuteur, de trouver un interlocuteur qui les écoute et qui transmet leurs préoccupations et l'information dont ils disposent aux États.
Olivier de Frouville, comment expliquer le faible taux de ratification après 10 ans d'entrée en vigueur de la Convention ? Est-ce que la Convention fait peur à certains États alors que d'autres pourraient se sentir non concernés par les disparitions forcées ?
Sans doute, il y a des États à qui la Convention fait peur. C'est des États dans lesquels une pratique de disparition forcée prévaut à l'heure actuelle. Ces États peuvent effectivement hésiter à ratifier la Convention et à se soumettre au contrôle du comité. Je dirais que par ailleurs, il y a deux autres peut-être raisons fondamentales pour lesquelles ce taux de ratification reste faible. La première raison, c'est que c'est une convention qui est compliquée, je dirais, pour le dire simplement, parce qu'elle est quand même assez technique. Elle implique que l'État parti adapte sa législation nationale. Or, on n'a sans doute pas suffisamment investi dans un appui, une assistance aux États partis pour ratifier cette convention. C'est des choses qui commencent aujourd'hui, mais dans cette première phase, dans ces premières 10 années, je crois qu'on a un petit peu trop penser que les ratifications allaient venir toutes seules. En fait, il faut vraiment mener des campagnes de sensibilisation et d'explication. La deuxième raison fondamentale, je crois que c'est qu'il y a beaucoup d'États qui ne se sentent pas forcément concernés parce qu'ils n'ont pas eu de disparition forcée dans leur passé. Donc, ils pensent qu'au fond, ce n'est pas une convention pour eux. Et là aussi, il faut faire un travail d'explication parce que c'est évidemment une erreur. Toute une partie de la convention concerne aussi les États qui n'ont pas de pratique de disparition forcée sur leur territoire, à travers l'exigence d'une coopération internationale. Les États doivent coopérer, à la fois pour venir en assistance, en aide aux victimes de disparitions forcées, et aussi pour lutter contre l'impunité des auteurs de disparitions forcées, notamment en activant leur justice nationale. Donc c'est très important qu'on atteigne la ratification universelle de cette convention, mais sans doute faut-il mieux l'expliquer.
Alban Prophète-Palasco, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez une situation qui s'est terminée positivement par rapport à votre travail ? Voilà, une situation qui vous vient en tête.
Alors évidemment, je pense aux cas dans lesquels les personnes ont été retrouvées, mais je pense aussi à des cas dans lesquels on a vraiment reçu des appels, des appels téléphoniques, des emails de victimes remerciant le travail du comité, le travail du secrétariat, dans l'accompagnement qui a été fait à la difficulté, aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans la gestion des cas, dans la vie quotidienne. Je pense à une famille dont 3 enfants ont été disparus de façon simultanée. 3 enfants qui ont laissé 5 petits-enfants au couple qui s'est adressé à nous. Donc, ses grands-parents avaient 5 petits-enfants à leur charge sans aucune source de revenus. On a été en contact avec eux vraiment de façon très, très régulière pendant plusieurs années. Les personnes ont été malheureusement retrouvées mortes. Néanmoins, je me souviendrai vraiment, je pense, toute ma vie, du remerciement et de la chaleur avec laquelle ce couple nous a remerciés et a souligné l'importance de l'accompagnement qu'ils ont reçu par le comité à travers les années qu'ils ont souffert pour que le cas de leurs enfants soit pris en main par les autorités nationales.
Oui, parce qu'une des plus grandes quêtes pour les proches des victimes, c'est de savoir en fait ce qui s'est passé.
C'est de savoir ce qui s'est passé, c'est d'être écouté, d'être compris et aussi de pouvoir un jour effectivement avoir une information sur le sort de leur, du membre de leur famille, de leurs proches, ce qui s'est passé et ce qu'il est advenu d'eux.
Alban Prophète-Palasco et Olivier de Frouville, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alban Prophète-Palasco, je rappelle que vous êtes la secrétaire du comité sur les disparitions forcées. Olivier de Frouville, vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et expert de ce comité. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère. Je vous donne rendez-vous le 6 janvier pour une nouvelle édition de l'Invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour 2021. À très bientôt.